BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé. La journée mondiale de la maladie de Parkinson, c'était cette semaine. Et à ce titre, je suis ravi d'inviter le professeur Alexis Brice, directeur général de l'Institut du Cerveau à Paris, un des plus grands centres de recherche au monde sur les maladies du cerveau. Les fauteuils roulants sont-ils amenés à disparaître? C'est ce que va nous dire Mathieu Masselin, cofondateur et président de Vandercraft, qui fabrique des exosquelettes qui réagissent aux doigts et à l'œil et bientôt à la pensée. Enfin, si vous avez mal au dos ou aux articulations, je vous conseille d'aller consulter un chiropracteur, seul professionnel de santé non médecin à traiter sans passer par une prescription médicale. Anne-Sophie Rosset, chiropracteur, nous décrit cette spécialité à tort trop peu connue. Check-up santé, l'exosquelette de l'info santé, c'est parti. Alexis Brice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur, vous êtes neurologue, vous dirigez l'Institut du Cerveau à Paris dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'Institut du Cerveau, c'est l'un des plus grands centres de recherche au monde sur les maladies du cerveau, avec plus de 20 000 mètres carrés de laboratoire et plus de 700 chercheurs. Vous y êtes depuis 2012, quasiment à sa création. On ne peut pas ne pas citer Gérard Saillant, qui est à l'origine de cet institut.
Oui, absolument. Gérard Saillant et ses deux compères, qui sont Olivier Lioncan et Yves Agide, deux neurologues qui, avec Gérard Saillant, ont conceptualisé l'Institut et surtout ont mobilisé les ressources et les fondateurs qui ont permis de construire cet Institut.
Alors justement, cet Institut du Cerveau, c'est un centre privé, un centre public ?
C'est les deux, parce que vous avez raison, parce que c'est un partenariat entre une fondation reconnue d'utilité publique de l'Institut du Cerveau et d'autre part, quatre partenaires publics. L'Assistance publique Hôpitaux de Paris, on se trouve dans l'hôpital de la Cité-Salpêtrière, le CNRS et l'INSERM, organisme de recherche, ainsi que Sorbonne Université.
D'accord, donc sur son mode de financement, il est donc en fait multiple.
Alors il est multiple, oui. Avec une contribution publique, bien sûr, et puis les ressources de la Fondation. Et à ce titre, j'aimerais remercier tous les donateurs et tous les mécènes de l'Institut qui permettent vraiment de faire de cet institut un institut.
On mettra à la fin donc le lien pour pouvoir donner à l'institut. Alors c'est vrai que cet institut, il a une particularité, c'est qu'il réunit en son sein plusieurs catégories de personnes.
Bien, du fait de sa composition et des partenariats, il réunit effectivement les patients qui viennent pour des essais cliniques dans notre centre d'investigation clinique. Il réunit évidemment des médecins spécialistes des maladies du système nerveux, des médecins-chercheurs, des chercheurs et des entrepreneurs, parce que une autre particularité de notre institut, eh bien, c'est qu'il comporte un incubateur de start-up dans le domaine des maladies du système nerveux.
Alors aujourd'hui, donc, on le sait, le cerveau c'est un organe très complexe. Hein. Est-ce que c'est les nouvelles technologies qui apparaissent depuis quelques années, est-ce qu'elles permettent de traiter, de voir, de traiter au plus profond de la cellule, ou du neurone en neurologie, oui.
En tout cas, pour comprendre le cerveau, comprendre ses maladies, on a besoin d'outils extrêmement perfectionnés qui permettent de l'analyser à toutes les échelles, depuis la molécule, la génétique par exemple, jusqu'au fonctionnement global du système nerveux pour savoir comment il se développe, de quoi il est composé et comment il fonctionne et surtout comment il résiste à l'usure du sang, du temps et ou comment il réagit lors d'une agression et avec toute la plasticité, la réparation qui sont des questions essentielles.
Donc on utilise la biologie moléculaire, la génétique, mais aussi l'imagerie.
Alors, l'imagerie, vous parlez de l'imagerie cérébrale avec l'IRM. C'est effectivement un des outils très importants pour caractériser les maladies du système nerveux. Mais on utilise aussi le séquençage du génome, par exemple, ou des techniques avoisinantes.
D'accord. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, hein, mais elle a vraiment boosté la recherche ces dernières années.
Alors je crois que c'est une de nos fiertés, c'est d'avoir réuni non seulement des médecins et des biologistes au sein de cet institut, mais aussi des mathématiciens, des physiciens, des statisticiens qui apportent une coloration et un savoir-faire dans le domaine du traitement des data, parce qu'on génère énormément de données, et dans la modélisation à la fois des pathologies ou des comportements.
Alors justement, c'était la semaine, c'était cette semaine la journée mondiale du Parkinson. 150 000 patients en France, 8 000 nouveaux cas par an, deuxième cause de handicap moteur. J'ai adoré la phrase sur votre site, « Seules nos émotions devraient nous faire trembler ». C'est tellement une expression incroyable qui représente bien les symptômes, dont le tremblement du Parkinson. Comment progresse-t-on ? Est-ce qu'on progresse dans cette maladie ?
Bien sûr, on progresse.
Son diagnostic, son traitement, sa prise en charge.
Oui. On progresse beaucoup. Le tremblement est un des signes de la maladie, mais il y en a d'autres. Et on a découvert au cours de ces dernières années qu'il y avait d'autres manifestations en dehors de ces manifestations typiques et qu'on connaît bien. Surtout, on s'est rendu compte, en creusant un petit peu, qu'il n'y avait pas la maladie de Parkinson.
Comme le cancer, il y a plusieurs cancers.
Ben voilà. Oui. Et donc, il y a une diversité des maladies de Parkinson qu'on n'a pas encore fini de démembrer, mais qu'il est indispensable de pouvoir appréhender. Parce que ce qu'on veut, c'est être capable de faire un diagnostic précis, individuel, d'avoir un pronostic qui soit adapté à chaque patient et de pouvoir proposer une thérapeutique qui, elle encore, va cibler le dysfonctionnement spécifique d'un patient qui sera différent d'un autre patient.
Bon, alors rassurez-nous quand même si c'est vrai que les médicaments pour l'instant, c'est pas encore, ils sont pas encore présents, encore commercialisables. Il y a d'autres techniques quand même qui permettent de ralentir ou de maintenir le.
Alors il y a plein de choses, hein. Et depuis quelques années, bien sûr, la stimulation cérébrale profonde, par exemple, mm-hmm. qui donne des effets très spectaculaires dans certains cas, et qu'on est en train de raffiner, parce que l'objectif, ce serait d'avoir une stimulation qui s'adapte à l'état du patient en temps réel, et pas une stimulation déterminée à l'avance et qui fonctionne en continu. Et on fait un petit pas vers ça avec des nouveaux types de stimulateurs. Karim Karachi, neurochirurgien, Marie-Laure Welter, neurophysiologiste, sont en train de tester des nouveaux dispositifs qui permettent aux patients d'enregistrer leur activité cérébrale pendant qu'ils ont une activité, d'accord. De façon à pouvoir adapter leur traitement.
On parle des ultrasons aussi.
Les ultrasons sont une perspective vraiment intéressante parce que ils permettent de faire beaucoup de choses dans le cerveau de façon complètement non-invasive. Ils peuvent ouvrir la barrière hématoménagée et permettre aux substances qui sont dans le sang, donc des médicaments, d'atteindre le cerveau, qui est d'habitude protégé par une barrière. Ils permettent aussi de traiter certaines maladies. Par exemple, vous avez parlé du tremblement, mais dans des tremblements qui sont très invalidants, on peut faire une toute petite lésion très focale avec cette technique qui arrête le tremblement.
L'année Covid, important. J'imagine que vous n'avez pas fait de télétravail hein, dans votre institut, ou très très peu. Vous avez aussi fabriqué, conçu des tests salivaires, qui ne sont sortis que maintenant.
Effectivement, des chercheurs de notre institut, Marie-Claude Potier, Yannick Marie, Marc Sanson, ont développé dès le début de la crise Covid des tests beaucoup plus faciles à réaliser, puisqu'ils sont basés sur la salive. Et ces tests, on les a appliqués sur une base volontaire au personnel de notre institut, ce qui leur a permis de venir travailler en étant protégés, en quelque sorte, et on a pu prévenir l'apparition de clusters au sein de l'institut. D'accord, ça a été fait il y a un an, et je suis très heureux de voir que maintenant, ces tests...
Vous êtes aussi heureux que ça sorte, que frustré et peut-être en colère que ça sorte que maintenant ?
Ouais, je crois qu'on aurait peut-être pu aller un petit peu plus vite. Ouais. Mais en tout cas, c'est une belle reconnaissance pour ces chercheurs qui se sont posés
Pour finir, on parle de collaboration. Vous avez fait une alliance, c'est ça, avec trois partenaires européens?
Bah, je crois que c'est pour montrer la force que réalise l'union des meilleurs dans le domaine. Et vous faites probablement allusion à ce qu'on appelle CURE-ND, c'est-à-dire le traitement des maladies neurodégénératives. Et nous avons décidé avec quatre partenaires européens en Angleterre, en Belgique et en Allemagne, qui sont vraiment des centres d'excellence, de faire alliance et de mettre nos forces en commun au service de la compréhension et du traitement des maladies neurodégénératives.
Pour finir, le lien sur le don ? Il faut aller sur l'Institut du Cerveau, directement sur le site ?
Institut du Cerveau, absolument. Et j'en profite pour remercier encore tous nos donateurs, qui sont vraiment très nombreux, et puis tous nos mécènes, Parce que vraiment, le financement complémentaire qu'ils apportent est essentiel à notre activité, à notre rayonnement et à notre attractivité internationale.
Merci beaucoup. Merci Alexis Brice, directeur de l'Institut du Cerveau à Paris. On va à présent accueillir une autre personne qui, elle aussi, est porteuse d'espoir. Mathieu Maslin, président de Vandercraft et ses exosquelettes.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Mathieu Maslin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes cofondateur depuis 2013 de la société Vandercraft. Vous avez fait Polytechnique, vous êtes ingénieur. Avec vous, la réalité dépasse la fiction. On va le voir dans quelques secondes. D'ailleurs, vous n'avez peur de rien, puisque vous avez envoyé un tweet à Elon Musk.
Oui, exactement. Parce qu'en fait, il est très investi dans une société qui s'appelle Neuralink, qui fait des implants cérébraux. Et une des choses qu'il dit, c'est avec ça, on va pouvoir faire remarcher des personnes paraplégiques. Et ce qu'on lui dit, c'est... On fait déjà remarcher les personnes paraplégiques. Chez Vandercraft, c'est le futur, c'est aujourd'hui, en fait.
D'accord. Donc, et qui vous a répondu ou pas?
Pas encore, mais.
Pas encore. Ah bon, c'est récent.
On continue
donc
à pousser le tout. Ouais, c'est très récent.
D'accord. Alors, quel parcours depuis Polytechnique jusqu'aux exosquelettes?
Eh ben, en fait, on a commencé avec Vandercraft. On n'avait rien, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'on a juste pris l'idée qu'il y avait eu très peu d'innovation, ou en tout cas pas suffisamment en termes de mobilité pour les personnes qui ont des déficiences et des troubles de la marche. Et qu'aujourd'hui, on était capable d'avoir toute la connaissance du monde entier dans une toute petite boîte qui s'appelle un smartphone. Et que par contre, on était encore obligé de se déplacer en fauteuil. Et quand vous êtes en fauteuil, là, je vois un trottoir juste de l'autre côté de la fenêtre. Vous arrivez devant le trottoir, vous êtes bloqué. Mmh. Et ça, à l'époque où on est aujourd'hui, on s'est dit, c'est pas possible. Et on s'est dit, la robotique offre des solutions. Mettons ces solutions à disposition d'un vrai besoin.
Donc, rassurez-moi, note d'espoir, la fin des fauteuils roulants, c'est pour quand?
Je vais pas mettre de date.
Court, moyen, long terme?
Moi, je pense que c'est le moyen terme parce que aujourd'hui, on voit qu'on est capable de gérer pratiquement toutes les situations. On travaille depuis un an et demi maintenant avec un de nos pilotes, Kevin, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui a eu un accident il y a une dizaine d'années. Et on est capable de gérer pratiquement toutes les situations auxquelles on peut imaginer, auxquelles on peut penser. Et être capable de le faire avec lui, c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit capable de le faire de manière fiable, répétable, avec les millions de personnes que ça concerne. Mais on voit que c'est faisable. C'est pas du fantasme. C'est pas, et c'est quelque chose qu'on nous disait au début quand on a commencé. On nous disait, mais ce que vous nous racontez là, c'est le fantasme du fantasme. Aujourd'hui, on voit que c'est la réalité. En fait, on est capable de le montrer dans plein de situations variées. Et donc, ça nous donne énormément d'espoir pour la suite.
Enfin, deux grosses situations. La première, c'est la rééducation. Pour recouvrer sa fonction de marche. Et la deuxième, c'est pour les paraplégiques qui ne peuvent plus utiliser leurs jambes.
Il y a deux cas de figure, effectivement. Il y a la partie rééducation. Toutes les personnes qui ont besoin de se rééduquer, de réapprendre à marcher ou de prévenir la détérioration de leur capacité motrice. On parlait de Parkinson juste avant. Ouais. Il y a effectivement gros problème locomoteur sur la maladie de Parkinson. Et puis l'autre cas de figure, c'est l'autonomie, c'est l'usage à domicile pour la vie de tous les jours.
Et vous équiperiez Garges, par exemple, des centres.
Ouais, alors effectivement, en fait, on a aujourd'hui pratiquement tous les plus gros centres de rééducation qui sont équipés ou qui vont l'être bientôt. Donc effectivement, le dernier en date, c'est Garches, qui est une figure dans le monde de la rééducation. Mais on a aussi d'autres, Kerpap, Berck-sur-Mer, Pionsa, je ne vais pas tous les citer, LRS.
Alors, c'est vrai que ça évolue à toute vitesse. Je me rappelle des premiers exosquelettes, c'était carrément, les gens étaient des cosmonautes. Est-ce que les nouvelles techniques permettent de miniaturiser tout ça?
Ouais, exactement. Alors, il y a des énormes progrès dans tout ce qui est batterie. Qui permettent de miniaturiser et d'embarquer beaucoup plus d'énergie dans des volumes beaucoup plus contraints. Là encore, on doit beaucoup à Elon Musk. Mais il y a aussi des techniques, enfin, il y a beaucoup de travail sur les matériaux, que ce soit les composites, mais aussi les alliages métalliques, qui font qu'on est capable, dans des volumes plus contraints, d'emporter une fiabilité et une résistance très, très importante. Et donc, nous, on travaille en permanence là-dessus à améliorer la structure, améliorer, optimiser, rendre ça plus compact. Et voilà.
D'accord. Et en fait, c'est miniaturisé. L'intelligence artificielle, elle est bourrée d'intelligence artificielle. C'est 8 ans de développement.
Ouais.
C'est ça, plus de 30 millions de.
Alors, on a levé après 30 millions d'euros. On en a encore pas mal en cash, parce qu'on a une gestion très, très safe du cash qu'on lève. Mais effectivement, c'est des énormes investissements. On a plus de 40 ingénieurs et PhD qui bossent non-stop. Pour améliorer, fiabiliser, rendre ça plus performant. Et donc, effectivement, c'est un très, très gros investissement et qui n'est pas fini parce qu'on a encore besoin de progresser, on a encore besoin d'être plus performant.
Alors, en deux phrases, comment ça marche? Est-ce que ça répond quoi? Ça répond à la voix? Ça répond au mouvement? Ça répond à la pensée bientôt?
Alors, c'est intéressant parce que c'est que des options qui sont possibles, en fait. Nous, ce qu'on a développé, la brique qui est énorme, c'est les capacités réflexes de l'exosquelette, c'est-à-dire être capable de réagir pour garder l'équilibre en permanence. Et ensuite, par-dessus ça, on vient donner des ordres. Et aujourd'hui, la manière dont ça marche sur l'exo, c'est à travers les mouvements du haut du corps. Donc vous allez vous pencher en avant, l'exosquelette va se mettre à avancer, vous penchez sur le côté, il va tourner. Mais on a développé...
Ça peut monter des escaliers aussi?
Ça peut monter des escaliers, on l'a montré dans le cadre d'une des plus grosses compétitions d'exosquelettes, un peu les JO d'exosquelettes. On est capable de monter, de descendre des escaliers, des pentes, d'aller sur le côté, etc.
Donc répondre à la voix, c'est...
Répondre à la voix, c'est quelque chose dont on a montré que c'était faisable. On a une preuve de concept chez nous et ça ouvre un champ des possibles énorme parce que tout le monde ne peut pas bouger le haut de son corps. En fait, il y a des populations pour qui c'est compliqué. Et effectivement, et donc la pensée, c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter en plus. Il suffit de connecter la brique technologique qui gère ça.
C'est-à-dire le casque.
Alors ça peut être un casque, ça peut être quelque chose qui est implanté. Il y a plein de technologies dont nous on n'est pas spécialiste, mais effectivement on pourrait se rendre partenaire avec des
donc vous êtes installé à Paris?
Nous, on est à Paris. On est
carrément rue de Rivoli, en plein au centre de l'univers.
On est rue de Rivoli. Notre usine est rue de Rivoli.
Incroyable.
Et c'est là où on assemble les exos. Et puis de là,
ça
on les envoie.
Qu'on peut encore fabriquer, investir, construire à Paris.
Quand il y a beaucoup de valeur ajoutée, comme c'est le cas dans un exosquelette, oui, en fait, un outil technologique comme ça où il y a énormément de valeur qui a été créée par toute la période de développement, etc., on peut faire ça à Paris.
Bon, la question qui fâche, ça coûte combien un exosquelette?
Alors aujourd'hui, ça coûte encore un petit peu cher, mais pas si cher que ça si on compare à des gros équipements médicaux, type des scanners ou des IRM. On est un ordre de grandeur en dessous de ces choses-là. Et surtout, quand on va sortir une version personnelle, donc qui ne sera plus destinée au centre de rééducation comme Garches, mais pour emmener à domicile, comme c'est notre objectif, les prix vont diminuer drastiquement avec les volumes.
La louche,
ce sera le prix d'une voiture.
Voilà, même pas le prix d'une, même pas le moins alors, qu'une
belle
voiture.
La version personnelle, ce sera le prix d'une belle voiture, exactement.
Merci beaucoup Mathieu Maslin, merci et encore bravo.
Merci.
On va retrouver Olivier Robichon pour sa chronique pharma.
BFM Business, Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Olivier Robichon, bonjour.
Bonjour Fabien.
Toujours heureux de vous retrouver.
Moi aussi.
Vous dirigez la revue, la fameuse revue Prescription Santé.
Voilà.
On parle beaucoup des laboratoires pharmaceutiques depuis le début de cette crise. Combien de salariés y travaillent?
C'est la grosse question. J'ai posé tout à l'heure des questions en coulisses. On m'a dit 300, 400 000. Non, 98 500 personnes travaillent aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique. C'est un chiffre qui est stable depuis 5-6 ans. C'était beaucoup plus élevé il y a une quinzaine d'années. En 2005, on était à 115 000, 116 000 personnes. Ça a beaucoup baissé, maintenant ça s'est stabilisé depuis 5-6 ans. Il y a 17 500 personnes qui travaillent, parmi on va dire 100 000 personnes, dans la R&D. C'est effectif qui grossit le plus. C'est plutôt encourageant d'ailleurs. Au total, les laboratoires qui sont installés en France investissent chaque année 4,5 milliards d'euros dans la R&D. Donc du coup, 4,5 milliards d'euros, c'est 10% de leur chiffre d'affaires. Donc plutôt, ça monte plutôt. Et puis 36%, ou un gros tiers, sont des employés dits de la production. Il y a 160 sites en France. C'est des emplois qui sont généralement des emplois assez qualifiés.
Alors ceux qui ont le plus baissé, les pauvres visiteurs médicaux, les délégués médicaux.
Les fameux VM, la visite médicale. Ils ont longtemps été décriés, accusés de pousser à la consommation. C'est une profession qui a été l'objet d'énormes réglementations. Ça a été très encadré depuis quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005, il y avait 25 000 VM à peu près dans les labos en France. Aujourd'hui, on pense qu'il y en a 10 000. Certains disent un peu moins.
On les voit beaucoup moins qu'avant.
Et puis, il y a beaucoup de gens qui travaillent maintenant à distance. Ouais. Donc, les profils ont changé, ont évolué. Mais on continue à raconter un peu tout et n'importe quoi. On lit parfois des papiers qui parlent des jupes très courtes des VM. Enfin, c'est assez scandaleux.
C'est pathétique. Alors, est-ce que les laboratoires continuent de recruter et quels profils surtout?
Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, malgré cette stabilisation des effectifs, il y a quand même 11 500 embauches chaque année. Et donc, 45% en CDI. Donc, c'est plutôt un secteur qui est porteur. Alors, il y a beaucoup de ces embauches qui sont dans la production, mais encore une fois, c'est des formats plutôt très, très, très qualifiés. Mm-hmm. Et puis, il va y en avoir beaucoup parce qu'on annonce 5% de départ à retraite, donc ça fait quand même presque 5 à 6 000 personnes d'ici à 2023, demain. Donc, effectivement, ça va recruter, mais ça va recruter sous d'autres formats. Longtemps, le format type, c'était le médecin. Le médecin n'avait pas beaucoup. Le pharmacien, on va dire, qui après ne voulait pas être à l'officine et faisait des écoles, on les connaît, hein, HEC, mm-hmm. l'ESSEC, ESCP. Ouais. Ça, c'était la sortie royale. C'est vrai qu'il y a un taux de chômage de zéro là-dessus.
Sur, alors, quels sont les jobs porteurs, ouais. les jobs du futur? Alors,
la fonction qui marche et qui progresse, c'est le market access, celui qui permet l'accès au marché des produits innovants, les affaires publiques et puis la communication. Là-dessus, il y a une spécialiste du recrutement qui s'appelle Suzy Rand qui nous a aidé. Elle dirige une société qui s'appelle Cyr Healthcare et qui nous dit que ça,
là aussi, de chasseurs de tête.
Ouais, chasseurs de tête, c'est l'une des plus connues du secteur. Mm-hmm. Il nous dit aussi que ça a beaucoup évolué. Mais c'est vrai que pendant il y a encore peu de temps, on voyait ceux qui arrivaient au poste majeur, le GM, ce qu'on appelle General Manager. C'était pas rare de voir 5 ou 6 labos en 15 ans. C'est des gens qui avaient multiplié les postes et puis qui arrivaient à la fonction. Aujourd'hui, là, il y a une jeune femme qui vient de prendre la direction de Léo Pharma. Elle a été dans un labo. Elle a fait 20 ans dans un seul labo. Et donc, il y a un changement d'attitude de la part des labos. C'est ce que Suzy Rand nous appelle, nous dit, c'est la fin du plug and play. Avant, les labos voulaient trouver quelqu'un immédiatement efficace, immédiatement capable de prendre en charge le truc. Aujourd'hui, les labos ont tendance à chercher des formats un peu nouveaux et puis à les accompagner dans leur progression. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, les recruteurs comme Suzy Rand proposent des jokers, des profils jokers qui sont de plus en plus acceptés. C'est des gens qui ne viennent pas de la pharma.
Divers et variés, plus divers et variés.
Ouais. Par exemple, dans le marketing, on a beaucoup de gens qui font aujourd'hui du marketing pharma, qui ont été formés dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la pharmacie. Les labos les accompagnent et ça, c'est plutôt à applaudir. Voilà, monsieur.
Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup.
Je vous en prie, mon cher Fabien.
À la semaine prochaine. Ah, on va accueillir à présent Anne-Sophie Rosset qui va nous faire découvrir ou redécouvrir la chiropraxie.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Anne-Sophie Rosset, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chiropracteur à Paris. Je ne sais pas si on dit chiropracteur, tristeuse.
On ne sait pas encore, le débat n'est pas tranché.
Alors, on a à tort l'impression que vous souffrez de votre nom, le mot chiropracteur. Il y a beaucoup de gens qui pensent à rebouteux, et pourtant c'est quasiment l'inverse, puisque vous êtes le seul thérapeute non médecin autorisé à pratiquer des manipulations vertébrales sans avis médical, c'est bien ça ?
Cervicales notamment.
Oui, cervicales notamment. Et cervicales entre autres.
Entre autres, parce évidemment.
Là aussi, on pense que vous vous intéressez qu'à la colonne vertébrale, mais pas seulement.
On s'intéresse à toutes les articulations.
Oui, il y a combien de chiropracteurs en France ?
On est environ 900.
Oui. Là aussi, il y a les chiropracteurs, il y a les kinés, il y a les ostéopathes. Il y a combien d'ostéopathes en France ?
Il y en a beaucoup, beaucoup plus, 30 000.
Ah oui, d'accord. Donc vous, 900 et 30 000 ostéopathes. Ouais. C'est quoi la différence entre un ostéopathe et un chiropracteur ?
En fait, on a des techniques qui sont vraiment très proches l'une et l'autre profession. On s'emprunte d'ailleurs beaucoup de techniques. On soigne les mêmes patients, les mêmes pathologies. La différence tient dans les écoles d'ostéopathie. Il y en a énormément. En deux ans, en six ans, en cinq ans, en quelques mois, certains kinés sont devenus ostéopathes. Et au moment de la réglementation...
Les mauvaises langues disent qu'il y a autant d'ostéopathes que d'écoles d'ostéopathie.
Pratiquement. J'ai... Mais il n'y a qu'une école de chiropraxie en France.
Ouais, une école.
Une école à Ivry-sur-Seine et son antenne à Toulouse. Et peut-être
plusieurs années de...
5 ans.
Quand même, bac plus 5.
Bac plus 5.
Oui.
D'accord. À temps plein.
Et c'est une spécialité qui est née aux États-Unis.
Comme l'ostéopathie, à peu près en 1890.
D'ailleurs, aux États-Unis, elle est remboursée par les assurances.
Ça n'a rien à voir avec la France. Il y a 100 000 chiropracteurs partout dans le monde. Mm-hmm. Ils sont vraiment très nombreux aux États-Unis. Et nous, on est une toute petite miette des chiropracteurs en France.
Alors donc, la chiropraxie, c'est quoi ? C'est une médecine manuelle ?
C'est une médecine manuelle qui vise à soigner...
Qui n'utilise pas d'appareil, donc.
Si, qui peut utiliser, contrairement à des ostéopathes, des petits appareils qu'on appelle activators, des tables de flexion-distraction. Donc ça, c'est peut-être une des différences par rapport aux ostéos et qui vise à soigner toutes les douleurs qui peuvent arriver dans le corps, en priorité les sciatiques, les lumbagos, les torticolis. Mais ça peut être une épaule, ça peut être un genou, une vieille entorse mal soignée de cheville.
D'accord, donc vous allez me dire évidemment que c'est très efficace.
Évidemment.
Mais voilà, une des preuves d'ailleurs, c'est que vos assurances sont très très faibles.
En fait, il y a peu de risques. Il y a très peu de risques à une manipulation, contrairement à ce qu'on pense aussi, ce que la population générale pense. Il y a très peu de risques à venir voir un chiropracteur. D'abord, on fait très attention à connaître la bonne indication.
Évidemment.
Sinon, on réfère chez un médecin. Et puis, une fois qu'on a la bonne indication, en général, c'est très efficace et très peu risqué.
Et ça s'adresse à tout le monde ?
À tout le monde, des nouveau-nés. Au centenaire. Ah
oui, une indication, par exemple, d'un nouveau-né, pourquoi il ne va pas se plaindre ?
Alors, lui, il ne se plaint pas, mais les parents se plaignent qu'il a des pleurs inexpliquées, qu'il a la tête déformée, qu'il a un torticolis congénital, toutes ces choses-là sur lesquelles on peut agir en tant que chiropracteur.
Donc pour l'instant, hélas, vous n'êtes pas une spécialité qui n'est pas remboursée par les assurances maladie.
Je pense que ça ne sera jamais vu le.
Des finances, oui. Ça peut être pris en charge par des mutuelles.
Alors, il y a de plus en plus quand même de mutuelles qui prennent en charge 3 à 10 séances par an de chiropraxie. Il faut se renseigner auprès de sa mutuelle. Mais c'est de plus en plus dans l'air du temps des mutuelles.
Alors, si vous aviez un vœu ou un coup de gueule même à passer, ça serait lequel ?
Le vœu, ça serait qu'il y ait une meilleure intégration des chiropracteurs dans le parcours de soins. Je trouve qu'on est un peu...
Vous n'êtes pas assez adressé, par exemple, par les médecins généralistes ?
Par exemple, par méconnaissance. Les kinés, on voit beaucoup de patients qui ont des lumbagos. Peut-être parfois, quand ils sont très surchargés dans certaines villes, il serait intéressant d'adresser aux chiropracteurs qui peuvent être très efficaces aussi en assez peu de séances.
Oui, mais vous n'êtes que 900. Peut-être qu'à votre tour, vous allez être surchargé, non ?
Je pense que l'école grossira à mesure qu'il y aura des demandes.
Oui.
Bon, on imagine.
Donc, vous me disiez 900 chiropracteurs en France. C'est vraiment, c'est relativement peu quand même. Hein. Ils sont répartis dans toute la France
ou... Il y en a beaucoup en Île-de-France, comme pour toutes les spécialités médicales. Mais évidemment, il y en a dans toutes les régions et dans toute la France.
Donc, les honoraires, les tarifs sont libres puisque...
Sont libres, tournent autour de 50 à 70 euros, je dirais en moyenne.
D'accord. Merci beaucoup à Anne-Sophie Rosset. Rappelle que vous êtes chiropracteur à Paris. Et on est très content de vous avoir reçu et de justement de montrer, mettre en vitrine cette spécialité qui n'est pas assez connue. Merci beaucoup.
Et ben voilà, c'est fait. Merci.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.